Une fois n'est pas coutume, là je vais prendre vraiment le temps de remercier tout le monde, parce que d'habitude on est toujours pressé, là on l'est aussi, mais vu le grand nombre de personnes qui ont répondu favorablement et qui nous ont aidés pour cette journée, j'avais envie de commencer, puis après on vous parlera de notre projet. Donc je les cite dans l'ordre du programme, mais merci Thierry d'être venu introduire cette journée, merci Béatrice et Diane pour votre accueil et puis votre professionnalisme. On sentait que les trans, c'est pas tout à fait comme les autres journées qu'on fait, c'était hyper pro. On a beaucoup apprécié l'organisation. Merci à Yannick Lemoulec, à Philippe Gonin qui va arriver, il est dans le train, à Patrice qui a quand même fait cette journée en collaboration avec nous et qui a été une belle rencontre en juin avec Diane et Béatrice, notamment l'expo, t'en parleras tout à l'heure, mais merci beaucoup. Merci à Christophe Brault, Christian D'Argelos, Pierre Fablet, Sergueï Papaye, René et Dominique Sonic, à Thomas Lagarrigue qui sera là tout à l'heure, à Marie qui vient de la fanzinothèque avec ses fanzines qu'elle a mis à côté du piano, à Cassandre, à Samuel Etienne, ici présent aussi, Franck Charpentier, Cédric Daillot, Bruno Perrin, Patrick Targaz, et enfin Guéna, Lionel, Vincent et Pierre Abou. Alors merci aux membres de notre équipe qui sont venus aujourd'hui, parce qu'on fait beaucoup de journées pour eux, ils tirent un peu la langue pour suivre le rythme. Donc il y a Nicolas, il y a Monique et Dominique qui est au son, il y a Sue qui fait des photographies pour documenter de manière ethnographique en fait toute notre recherche, il y a Jérôme qui vient d'arriver, merci beaucoup. Voilà. Et on vous demande pardon parce que vous connaissez à connaître par cœur notre texte introductif, mais c'est pour expliquer aux autres ce qu'on fait. Alors on va commencer par ça aujourd'hui.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonsoir et bonne année. Je vous adresse
Donc on est en 76 et la même année, bien loin des heures de la République, on a ça. Je laisse la mise en place, elle est intéressante. Etc. Donc c'est au cours de l'été 76 que simultanément aux États-Unis, en Angleterre, en Australie et dans de nombreux pays d'Europe, une multitude de formations musicales sont brutalement désignées dans la presse ou s'autodésignent comme punk, qui est un vieux terme argotique qu'on retrouve déjà sous la plume de Shakespeare, qui désigne ce dont Thierry parlait tout à l'heure, un marginal, une prostituée, un homosexuel, un vaurien, un pourri, enfin quelque chose qui n'est pas très recommandable. Un grand universitaire anglais qui s'appelle Dick Headbidge et qui est à l'origine des cultural studies, entre autres, il n'est pas le seul, mais et a justement consacré son ouvrage séminal au punk en 77 et définit le mouvement comme un amalgame contre nature, une alliance improbable et mystérieuse de traditions hétérogènes et apparemment incompatibles, avec des groupes qui ont, Béatrice l'a rappelé, la volonté de faire table rase de l'histoire du rock au moyen d'une musique qui revendique la simplicité, trois accords fait un groupe, des textes qui se moquent des conventions sociales et politiques et une attitude énergique et provocatrice. Cette cacophonie sonore se double d'une cacophonie visuelle, avec un répertoire vestimentaire tout aussi éclectique de la musique que Headbeach définit toujours comme un reflet déformé de toutes les principales sous-cultures d'après-guerre. Voilà. Alors nous, on est dans le contexte français, donc vous l'avez vu, on est dans la France de Giscard où il y a encore des traces de gaullisme finissant. Et l'explosion punk est marquée, étant parlé aussi tout à l'heure, dès l'été 76 par le festival de Mont-de-Marsan, qui est quand même le premier festival punk au monde, dans les Landes. Alors voilà, ça c'est un fanzine de l'époque, où est Mont-de-Marsan, partout. Voilà, ça c'est pour que vous vous remettiez dans le bain. Il faisait plus chaud qu'aujourd'hui, de toute évidence. Voilà, donc vous voyez bien du point de vue du look, hein, qui a encore les cheveux longs, enfin, qui a un croisement de génération avec l'ancienne génération hippie, etc. Voilà. Donc, Festival Punk de Montmartre en 76, avec des formations qui en France choisissent majoritairement de s'exprimer en français. Et alors là, c'est un débat, on en reparlera avec Patrice, parce qu'on en a déjà discuté. Un premier achèvement du mouvement vers les années 78, on va dire, donc qui permet de dire, les puristes nous expliqueront que le punk s'est terminé en 78 et qu'après, il n'y a plus rien. Sauf qu'on constate aujourd'hui qu'il y a encore une jeune scène vivante, elle sera là cet après-midi, qui continue à se définir comme punk, ou qui est auto-désignée, ou qui est désignée dans les fanzines, dans certains organes de presse, etc. Et qui donc pose quand même la question du renouvellement progressif et perpétuel de ce mouvement, avec quand même des profondes transformations au sein de cette culture musicale, parce que la musique de 76 n'est pas exactement celle d'aujourd'hui, et pourtant elle est désigné comme punk, voilà. Et l'idée de ce projet, Patrice, tu l'as rappelé, qui est consacré à la culture musicale. Et au passage, je remettrai en contexte les propos de Thierry, qui parlait beaucoup de marginalité et de marge. Je pense que c'est pas vrai, parce que ce dont on se rend compte dans notre recherche, c'est que le punk, enfin, on travaille sur un objet qui est pas du tout une marge, mais qui est très largement, communément partagé, et que justement, qu'on ne peut réduire à l'image du punk à crête ou du punk à chien, voilà.
Quelques axes ou quelques piliers du projet. D'abord, considérer que ce qui est un petit peu compliqué dans ce projet, c'est que pour nous, en tout cas, c'est que le punk, c'est un objet illégitime. Tu viens de le rappeler, non content d'être considéré avec circonspection dans la société française, le punk, c'est justement souvent cette image du marginal, violent, du type percé avec une crête ou du punk à chien. Le punk a aussi un statut problématique dans le champ académique. Il a fallu qu'on se batte un petit peu, y compris contre nos institutions, parce que le punk, c'est un objet qui pue, pour le dire très vite. Voilà. C'est aussi un objet vulnérable. Notre travail, enfin le projet auquel on vous associe aujourd'hui, c'est quand même un projet qui nous oblige un petit peu à travailler dans l'urgence, parce que punk est un mouvement qui est marqué par certaines usures, violences de la vie, etc. Les gens disparaissent très vite. Et au fond, par rapport à la problématique essentielle qui est de recueillir des témoignages, des traces, des archives, etc., il y a une réelle urgence à travailler sur cette scène punk en France, qui d'une certaine manière a quand même perdu déjà beaucoup de ses membres et en perd encore beaucoup à vitesse grand V. Donc un objet vulnérable, c'est aussi un objet difficile, parce que tu l'as dit, Solveig, la nature même du punk est problématique. Comment on le définit déjà, ça c'est un vrai problème. Le punk, c'est quelque chose qui a priori, si on parle de punk ensemble, on voit à peu près tous, mais si je vous demande de le définir, chacun d'entre vous, ça va être compliqué. Donc la définition même du punk, c'est un des enjeux du problème. Le projet s'est organisé autour de la notion de scène. C'est-à-dire le cœur du travail, c'est la musique, mais cette notion de scène permet de convoquer à la fois les musiciens, bien sûr, les acteurs qui sont au centre de ce mouvement, mais également les labels indépendants, les médias, tous ceux qui concourent finalement à la production de cette musique et à la production de cette culture. Alors, trois grandes questions de recherche. On est parti quand même de paradoxes ou d'apparents paradoxes, ce qui est intéressant à questionner dans le punk. D'abord, premier paradoxe, c'est évidemment celui du temps. Solveig vient de le dire, c'est quand même un mouvement au départ qui s'inscrivait dans l'absence d'avenir, même si on peut le discuter, mais en tout cas, beaucoup de gens de la première génération ont considéré que, en gros, en janvier 78, à la séparation des Pistols, le mouvement était enterré et puis le punk s'était terminé. On se rend compte, évidemment, comme tu l'as dit, Solveig, que 40 ans plus tard, il y a toujours des punks en France, que donc il faut bien considérer que c'est un mouvement qui s'est réinventé pendant 40 ans, et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est sur comment ce mouvement s'est réinventé, et puis d'une certaine manière, comment on est passé de No Future à quel type de futur on veut construire ensemble, ou aux marges ou ailleurs. Donc, première question de recherche autour du temps. Deuxième question de recherche autour de l'espace. Alors là aussi, il y a plusieurs dimensions, mais pour aller très vite, ce qui nous interpellait, c'était le fait que Et on est encore confronté à ça. On considère que le punk en France, c'est quasiment inexistant. Oui, éventuellement, c'est une pâle copie de ce qui se faisait aux États-Unis ou en Angleterre. Donc nous, on défend l'idée, d'une part, qu'il y a un réel espace de création, hein, la scène punk en France, avec ses originalités, ses formes de déclinaison, ville par ville, région par région, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante à regarder en termes de géographie ou transfert culturel, c'est éventuellement comment les acteurs circulent et comment, en fait, la France n'est pas forcément inféodée comme ça à une empreinte culturelle qui viendrait de loin, et comment le punk en France a pu aussi être force, hein, et éventuellement influencer, bref, travailler sur la porosité des frontières, hein, voilà. Et troisième dimension sur cette lecture spatiale du punk, c'est regarder, Thierry Terret l'a rappelé tout à l'heure, les formes d'itinérance, comment les acteurs circulent, quelle est la dynamique au fond de cette scène. Et on est à Rennes aujourd'hui, mais Rennes, il y a la ville, et puis il y a les apports, et puis il y a les musiciens qui circulent à partir de Rennes, il y a les rivalités entre villes, entre bourgades, etc. Donc c'est regarder un petit peu la dynamique spatiale. Troisième question de recherche, hein, qui ont permis de poser le projet au départ, c'est ce qu'on a appelé les cohérences dans l'anarchie. Voilà un autre paradoxe. Un mouvement anarchique, très kaléidoscopique, mais quand même, on se rend compte que sur 40 ans, il y a des moments de convergence qui permettent éventuellement de définir des temps de grande cohérence et de résonance entre les codes musicaux, les codes esthétiques, les codes vestimentaires, etc. Bref, on peut arriver aussi à définir des générations dans ce mouvement à partir de looks, de sons, etc., etc. Donc c'est travailler à reconstruire le sens au fond et la cohérence de ce mouvement au-delà d'un principe anarchique. Voilà.
Alors là, notre recherche est structurée en huit grands, on appelle ça chantier, mais huit grandes thématiques. Évidemment, toutes se recoupent, elles ne sont pas du tout segmentées. Donc la première, c'est ce qu'on a appelé historicité et généalogie. En fait, il s'agit, on voit apparaître trois grandes générations, celle d'origine, 76-78. Plutôt une révolution vraiment centrée sur la musique, pas tant sur la politique revendicative. Voilà, la jeunesse s'ennuie et prend les moyens qu'elle a en se débrouillant, en fait, hein, avec le do it yourself pour faire de la musique. Une deuxième génération, là j'ai mis l'album des Bérus parce que autour de la narco-punk, donc beaucoup plus dur, beaucoup plus engagé. Et une troisième génération, nous on les appelle affectueusement les baba punk, mais qui ont qui défense de la cause animale, vegan, etc., qui, quelque part, retourne complètement le projet originel du punk, qui était No Future. Et là, on passe, comme a dit Luc, dans quelque chose qui est plutôt quel futur. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Le deuxième chantier, donc vieillissement et mémoire, avec bon, la vieillesse emmerde le Front National, là j'ai mis une petite caricature. Évidemment, quand on avait 20 ans en 76, ben, on n'a plus 20 ans aujourd'hui. Et donc comment on a évolué dans cette scène ou comment on en est parti, qu'est-ce qu'on est devenu, parce que ben, on se doute bien qu'on n'est pas, tout le monde n'est pas resté punk et qu'il y en a partout, même à l'université. Enfin voilà, qu'est-ce que tous ces gens sont devenus et comment ils vivent cette révolte fondamentale qui les portait quand ils avaient 16 ans.
Il y a un travail sur la mémoire aussi. Et de regarder un petit peu comment les mémoires s'accordent ou s'accordent pas aussi sur cette histoire.
Souvent, on s'accorde pas. Troisième chantier, c'est tout le chantier. Et quand je vois Samuel, j'ai honte parce que j'aurais pu mettre des fanzines quand je vois Samuel et Marie, hein, autour de la médiation et de la médiatisation. C'est-à-dire comment dans les médias, alors qu'ils soient officiels ou bricolé, on va dire, on porte ce mouvement, qu'est-ce qu'on raconte et du coup, qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Le quatrième chantier, c'est celui on a appelé homologie musicale, esthétique et artistique. En gros, c'est de voir, comme disait Luc, comment, par exemple, on repère les trois générations musicales dont je vous parle. Elles se voient, par exemple, très bien aussi graphiquement dans les dessins des pochettes. Il y a aussi, donc, du point de vue de les cultures esthétiques et visuelles, aussi des grandes périodes qui recoupent les cultures musicales, les looks, etc. Voilà. Cinquième chantier, c'est la violence de la scène punk. Thierry l'a rappelé, apparemment les punks ça fait très peur. En fait, pas tant que ça, parce que tout ça c'est un milieu qui a ses codes, c'est plutôt bien normé justement. Et quand on l'approche, il y a des règles, c'est assez codifié. Mais c'est une question qui est essentielle, la pseudo ou violence, oui. Ou comment on la régule,
fantasmer ou représenter.
Sixième chantier, c'est le corps, tatoué, percé, etc. Qu'est-ce que dit ce corps en fait en rapport avec la musique, le corps du guitariste et puis le corps du public? Alors le septième chantier, c'est sur le genre du punk, c'est-à-dire la place des femmes. Est-ce que c'est un espace si ouvert que ça? On peut en discuter, j'en ai discuté avec des acteurs de la troisième génération qui viendront parler tout à l'heure. Pas tellement en fait, les femmes on les retrouve beaucoup aux entrées, à la caisse, à la basse.
Il faut dire que d'ailleurs sur la scène punk rennaise, et on en a beaucoup discuté, on a eu du mal à faire venir des filles, hein. Il n'y a pas de filles, enfin, en tout cas elles ne sont pas représentées, donc ça a été compliqué. Donc c'est en soi un signe, mais ce n'est pas propre à Rennes, hein. C'est une réflexion qu'on peut avoir sur l'ensemble du territoire. Hein.
Et le huitième chantier, on reprend toujours ta carte, hein, Samuel, parce qu'elle est très bien, c'est cartographier la scène punk. En gros, c'est un chantier de synthèse. Comment est-ce qu'on peut tisser des réseaux? Alors, il y aurait besoin de mettre aussi avec l'Europe, avec le reste de l'Europe, avec les États-Unis, avec un réseau beaucoup plus large. Comment tout ce monde-là, en fait, communique et circule depuis 76, sachant que les moyens de circulation et de communication ont beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué et que ça modifie beaucoup les choses. Alors, on a mis le petit visuel de la journée au milieu. Le noyau dur de notre projet, c'est vraiment ces journées d'études. Nous, on appelle ça journée d'études à l'université, mais à l'extérieur, on appelle ça rencontre et débat, parce que souvent, les gens, ça leur fait peur quand on dit journée d'études. C'est la 16e, je crois, aujourd'hui, en deux ans et demi. L'idée étant vraiment ça nous permet de rencontrer les acteurs, de faire surgir les archives, ça crée beaucoup de liens, ces journées. Et on y tient beaucoup, et l'année prochaine, on en a une par mois, beaucoup en province l'année prochaine. Voilà, alors, après je te laisse la parole. Notre équipe, c'est une équipe qui est très mixte. Elle est constituée à la fois de chercheurs classiques qui viennent eux-mêmes de beaucoup de disciplines différentes. Il y a un géographe, un sociologue, des historiens, des musicologues, des historiens d'art, un anthropologue. Enfin, il y a plein de gens d'origines diverses scientifiquement. Et dans notre équipe, il y a aussi des acteurs de la scène. Ça n'a pas été gagné, hein, forcément, à négocier, ni au sein de notre équipe, ni au point de vue des institutions. Nous, on s'en fiche. Tout le monde a sa place dans l'équipe, pourvu qu'il y a des choses à apporter sur ce sujet qui est très large. Et surtout qu'on ne veut pas du tout enfermer à l'université. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui et pas à la fac de Rennes, par exemple. Parce que c'est un espace quand même plus ouvert que l'université. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très militant dans notre projet, d'intégrer tous les gens qui ont participé et qui participent encore à construire l'histoire de cette scène. Il faut remercier ses sponsors. Hein, donc, voilà. Donc ça, c'est l'Agence nationale de la recherche qui nous finance pour 4 ans.
Il faut dire que c'est quand même une... Alors, je parlais de combat avec nos institutions, c'est quand même une reconnaissance symbolique importante qu'un organisme d'État ait accepté de financer, de soutenir un projet justement qui travaille sur les marges, sur la culture en résistance, etc. C'est quand même pas anodin. Enfin, c'était plutôt rassurant pour nous. Et c'est pas de la récupération. Voilà. Il y a une attente en termes de recherche.
Alors ça, c'est nos partenaires réguliers, donc l'École nationale des chartes pour tout le volet archives, patrimoine. Le Centre Barbara Fleury qui nous accueille à Paris pour les rencontres qu'on fait à Paris, la Fanzinothèque et Marie qui est là, je la vois, elle est là, voilà, se cache. Le ministère de la Culture et de la Communication parce qu'on était en partenariat avec leur mission des archives justement pour toutes les questions, comment on fait pour classer les archives, pour les ranger, pour les trier, pour les inventorier, pour les indexer, etc. La Philharmonie aussi, et le Punk Scholars Network, qui est en fait un réseau qui essaie de structurer la recherche en Europe et même aux États-Unis sur cette thématique, avec des membres d'autres personnes, d'autres pays, qui essaient de faire la même chose que nous. Voilà. Évidemment, il y en a beaucoup plus en Angleterre que chez nous, que même en Italie ou en Allemagne.
Voilà, alors... au cœur de notre projet, parce que travailler sur l'histoire ou la musicologie ou les sciences sociales par rapport au punk, c'est pas magique, hein. Faut trouver la ressource, faut trouver l'archive, et c'est vraiment ce qui est au cœur de notre travail. Alors les archives du mouvement punk, je vous dis tout de suite, elles sont pas aux archives nationales, elles sont pas aux archives municipales, départementales. En fait, il faut aller les chercher auprès des acteurs. C'est ce qui explique l'enjeu qu'il y a à rencontrer les gens. à créer des réseaux et à créer de la confiance en quelque sorte. Il y a une dimension anthropologique forte. Il a fallu, ça a été vraiment quelque chose d'important dans le projet. Et on commence aujourd'hui à récolter des fonds d'archives. Alors, quelques exemples, les archives des Salles Majesté, un groupe punk notoire, 30 ans d'archives qui nous ont été confiées. Les archives de Radio FMR, qui est une radio historique, hein, des radios historiques de ce mouvement 80 des radios libres, et on a récupéré 14 mètres linéaires d'archives, une partie des archives du squat de la Miroiterie, donc on peut aussi trouver des archives de squat, etc. Donc, en fait, construire l'histoire, c'est trouver l'archive et, d'une manière noble, inventer l'archive. Hein, voilà. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on est en train de classer des fonds d'archives. Je crois que c'était les archives des Salles Majesté.
Et là, c'est les archives côté, de la radio. Voilà,
les archives de la radio.
Amenées en camion par Monique et Dominique, fin, de manière complètement.
Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment important pour le projet.
Alors là, on est en train de lancer une base de données collaborative. Elle marche, hein, elle est en phase de test final, mais elle fonctionne. L'idée étant vraiment que ça soit un projet collaboratif, donc c'est tout le monde, vous tous là. Vous n'avez plus aucune excuse si vous ne rentrez pas les données sur vos groupes dans cette base, avec tous les problèmes qu'il y a en termes de recherche. Par exemple, les punks, ils n'aiment pas trop souvent s'authentifier. Donc, on a créé des choses complètement anonymes où on peut rentrer ces données de manière anonyme et comme ça, on ne sait pas qui les a rentrées. On a essayé de gérer pas mal toutes ces données, toutes ces questions. Et puis aussi les questions de sécurité pour éviter que un punk, que quelqu'un détruise toute la base en faisant un clic parce que c'était collaboratif. Donc là, ça marche. C'est en ligne sur, alors là, ça, sur le site, j'ai pas le lien, je vous montrerai tout à l'heure, sur le site de notre projet qui s'appelle PIND, il y a un onglet qui s'appelle base de données et on peut commencer déjà. J'ai vu que François Guimaud des BERU, qui est au CNRS, avait beaucoup rentré de données ces derniers temps sur les BERU et sur Molodeuil. Alors ça, c'est tout ce qu'on fait dans notre projet. Ça, c'est une exposition qu'a organisée Sioux il y a un an et qui tourne. Elle a tourné 2-3 fois maintenant, qui était justement sur la scène punk actuelle à Paris. Qu'est-ce qu'on pouvait...
En voilà. Ile-de-France.
En Ile-de-France. Ça, c'est le mur de fanzine de Samuel Etienne qui fait des collages pendant nos journées. Voilà, c'était à l'occasion d'une journée d'études à Caen. Ça, ce que je vous ai mis en photo, c'est pour vous montrer la. Donc, il y a une journée d'études avec un anthropologue qui parle, et puis derrière, on a c'est eux là-bas là qui étaient en train de peindre toute la journée, et la journée était consacrée aux cultures visuelles et esthétiques, donc évidemment, ça prenait un sens. Voilà. Parfois, on fait de la musique aussi.
Parfois.
C'est toi, oui, Laurence. Parfois, voilà. Alors, en conclusion, PIND, c'est quoi ?
L'acronyme de Punk is not dead.
Punk pas mort.
C'est aussi le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
Un retour vers nos futurs qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Caen, Rouen, Paris, Toulouse, Fumel, Bordeaux, Rennes, Montaigu, Lyon, Saint-Étienne.
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre.
Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatous et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse aussi qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futures.
Ça parle de 77 et des années 80, 90, 2000, 2010.
Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule parfois, même souvent beaucoup, mais toujours pour comprendre.
Bref, un truc essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs et des musiciens et des acteurs. Une équipe terrible et tellement motivée. Voilà, just take a look. Bonne journée d'études, bonne rencontre.